Merci, moi aussi je vais vous remercier de l'invitation et de l'accueil très chaleureux que vous me faites. Et donc, vous parlez de la question du terrorisme, puisque je travaille, Céline vous a présenté brièvement ce que je faisais, je travaille depuis une bonne quinzaine d'années sur la question de la violence politique. Peut-être dans le débat reviendrons-nous sur la question de violence ou du terrorisme. Quoique je vais déjà un peu l'aborder dans cette conférence. Évidemment, depuis les années 60, et plus encore depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme figure au rang des menaces et des défis rencontrés par les États, et en premier lieu par les États occidentaux. Alors, ça semble une évidence, même si il y a un très grand flou quant à la définition du phénomène, mais aussi on compte à peu près une centaine de définitions sur le marché actuellement, et il y a un grand flou également sur ce que l'on entend par organisation terroriste et par attentat terroriste. Donc de fait, même au niveau de, si l'on veut comptabiliser, alors c'est évidemment une comptabilité macabre, mais en sciences sociales on mesure également, si l'on veut quantifier donc le phénomène, eh bien, le nombre d'attentats est assez différent d'une institution à une autre, puisque, pour vous donner un exemple, de 1968 à 1977, eh bien, suivant les instituts de recherche, il y avait des instituts qui comptabilisaient à peu près un millier d'attentats sur cette période de 10 ans, et puis un autre qui en comptait 2600, plus du double. Alors, en moyenne, là aussi, excusez-moi du caractère macabre, mais c'est aussi pour comprendre la spécificité du 11 septembre 2001. En moyenne, on s'accorde pour dire qu'il y aurait, le terrorisme aurait fait à peu près 3000 victimes de 68 à 84, soit une moyenne de 200 victimes par an. Alors, aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est à la fois de vous expliquer ce qu'est une action terroriste et puis voir les différentes formes de terrorisme et enfin dans un dernier temps l'évolution du phénomène avec la césure, la coupure que représente très certainement le 11 septembre 2001. Alors, le terme terrorisme est de création récente, puisque on le trouve exposé pour la première fois dans le supplément de 1798 du dictionnaire de l'Académie française. Et alors, à ce moment-là, les terroristes, plus exactement, ce sont les partisans de Robespierre. Le terme commence par donc terreur pour désigner un régime ou un système politique de type donc de celui qui a prévalu sous la Révolution, de la chute des Girondins jusqu'à la chute de Robespierre en 1794. Et donc c'est à partir de la chute de Robespierre que terroriste, désignant donc les partisans de Robespierre, désigne donc un partisan donc de la violence. Et c'est au cours du siècle suivant que le terme va subir une mutation, une transformation, puisque comme vous le voyez, à l'origine, eh bien, ce terme désigne un mode de gouvernement et ceux qui soutiennent ce type de gouvernement de la terreur. Au cours du 19e siècle, eh bien, à l'inverse, le terme va connaître une révolution sémantique, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de terrorisme pour désigner une stratégie violente, principalement dirigée contre l'État, au moyen d'assassinats et d'attentats visant à créer un climat de terreur. Alors avec une dimension, vous voyez, un peu tautologique, le terrorisme, c'est une violence qui cherche à susciter la terreur. Alors, du point de vue du droit international, le consensus a été extrêmement long pour trouver une définition commune en raison des enjeux politiques qui sont associés au terme terrorisme, sur lequel je vais revenir. Mais avec 2001, le droit a considérablement évolué, puisque en 2004, eh bien, l'ONU va définir le terrorisme de la façon suivante. Le terrorisme, donc, pour qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population, de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir. Et comme je vous le disais, depuis que la communauté internationale, à partir des années 1930, se réunit régulièrement pour trouver une définition, eh bien, il n'y avait jamais consensus, car le terme terrorisme est considéré par certains comme une étiquette qui révèle finalement une violence que l'on réprouve et qui est donc, suivant la conjoncture politique et suivant celui qui parle, cette étiquette, eh bien, elle varie. Je vais vous donner deux exemples de cela. Menahem Begin a été commandant de l'Irgun, qui a été une organisation sioniste terroriste qui a combattu les Britanniques et donc qui était considéré comme terroriste et qui va ensuite devenir Premier ministre d'Israël en 77 et à ce titre interlocuteur des mêmes Britanniques notamment dans les négociations sur la paix au Proche-Orient. Autre exemple, et évidemment sciemment, j'ai choisi deux exemples de la même scène proche-orientale. Yasser Arafat, fondateur de l'Organisation de libération de la Palestine, une organisation qui a été considérée terroriste dès sa naissance à la fin des années 60, et considérée jusqu'en 93 par la communauté internationale comme une organisation terroriste, et bien comme vous le savez, et bien il a lui aussi reçu le prix Nobel de la paix et il a été responsable de l'autorité palestinienne jusqu'à sa mort en 2004, qui s'est traduit par une transformation du rapport de force interne aux Palestiniens avec la montée du Hamas dont on parle depuis des années et particulièrement évidemment depuis les bombardements que connaissent Gaza depuis Noël. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut quelquefois faire attention à la façon dont on parle et que très souvent le terme terrorisme va être nié par ceux qui sont qualifiés ainsi, qui préfèrent d'autres termes et en particulier celui de guérilleros. Alors, du point de vue de l'objectif politique, eh bien, la guérilla et le terrorisme poursuivent un même but, et on qualifie d'ailleurs le terrorisme et la guérilla de petite guerre. Ce terme de guérilla est né entre 1807 et 1912 pour désigner la résistance espagnole contre les armées de Napoléon. Et dans cette résistance, les résistants espagnols ont inventé une nouvelle stratégie qui est la guérilla. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que le conflit oppose un État à une minorité et que l'enjeu, l'issue du conflit va moins se situer sur le plan militaire que sur le plan psychologique. Car il s'agit à travers de cette stratégie de démoraliser l'adversaire, donc ici les armées napoléoniennes, et de rallier à sa cause la population. Donc sur l'objectif, terrorisme et guérilla se rejoignent. Mais ils se distinguent fondamentalement par la voie, le modus operandi de la violence qu'ils ont choisi pour parvenir à ce but. Les guérilleros vont chercher à atteindre directement le pouvoir politique par son harcèlement. Ils vont commettre des sabotages, ils vont attaquer des casernes, des unités de soldats isolées, ils vont pratiquer l'assassinat politique de personnalités, détruire les infrastructures nécessaires au pouvoir politique. Donc les victimes et les cibles, en quelque sorte, se confondent. C'est très différent pour les terroristes, même si beaucoup de terroristes préfèrent se présenter sous le terme de guérilleros, qui apparaît plus noble, car le terrorisme, la marque du terrorisme, c'est la stratégie de l'attentat aveugle, qui en est la plus caractéristique. L'attentat à la bombe ou à la voiture piégée, qui va frapper n'importe qui, n'importe quand. Alors, pourquoi cette stratégie de l'attentat aveugle, ou encore, on parle chez les spécialistes, d'attentat indiscriminé, pourquoi est-ce donc la stratégie typique de l'acte terroriste? Eh bien, parce qu'il il est mu par deux logiques. Une logique est d'ordre psychologique, et de ce point de vue, rejoint la guérilla, c'est sur le terrain psychologique que se noue le conflit. Pourquoi? Eh bien, parce que l'attentat aveugle, il est le plus à même à créer un climat de terreur, puisqu'il frappe donc n'importe qui, n'importe quand, quelqu'un qui prend le métro, qui va chez Tati au mauvais moment, etc. Et puis, l'autre objectif, visé à travers cet acte aveugle, il est idéologique. C'est-à-dire que tuer au hasard, puisque l'attentat aveugle, c'est cela, c'est tuer au hasard le maximum de personnes, de civils, eh bien, ça signifie, comme le disait le leader d'un groupe palestinien qui s'appelait, les années 70, qui s'appelait Septembre Noir, tuer au hasard, ça signifie que, je le cite, « personne n'est neutre, personne n'est innocent ». Pas même le quidam, le passant, l'enfant qui passe par Tati ou qui passe dans telle rame de métro à ce moment-là. C'est-à-dire que chacun doit choisir son camp sur le mode « vous êtes pour nous ou vous êtes contre nous ». Mais la neutralité n'est pas possible et si vous n'êtes pas pour nous, eh bien vous méritez la mort. Donc, ce terrorisme consiste donc à répandre la terreur, encore une fois, par une stratégie délibérée de violence aveugle, de violence indiscriminée, qui va frapper la population civile et non pas des soldats des armées régulières. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est une stratégie qui défait le lien entre la victime, qui sont donc des non-combattants, des innocents, et la cible politique qui est visée, qui est le pouvoir politique. Donc c'est une stratégie, on dit en polémologie, en étude des guerres, c'est une stratégie militaire indirecte, qui évite le face-à-face avec les agents des forces de l'ordre, et qui compense le déséquilibre militaire qui existe entre les forces de l'ordre et les groupes militants en question, qui sont évidemment moins nombreux, moins armés que les forces de police. Donc ce déséquilibre militaire, eh bien, il est compensé par la frappe aveugle de la population civile, puisque l'objectif, c'est que ces actions très violentes suscitent la peur dans l'opinion publique, et que cette peur dans l'opinion publique va forcer les pouvoirs publics, les hommes politiques, à céder sur la politique étrangère, sur la libération de militants, etc. L'action terroriste, et c'est un deuxième point très distinctif, est extrêmement théâtralisée. Et cette action vise à susciter la peur bien au-delà de ceux qui ont été frappés, des victimes. Donc, cette action nécessite une caisse de résonance, et les médias assurent une caisse de résonance formidable à ce type d'action. Un collègue, Pierre Manoni, tout attentat terroriste s'efforce de revêtir les aspects d'un drame. Ce drame, il exige d'être à la fois montré et monté, comme une pièce de théâtre. Brian Jenkins, qui est un spécialiste de la Rand Corporation, qui est un groupe de recherche sur les questions de terrorisme, disait, avec cette formule évidemment choquée, le terrorisme, c'est du théâtre. Et c'est par la télévision que le terrorisme acquiert une forte efficacité à la fois c'est par la télévision qu'un groupe qui peut être un groupe composé de quelques individus, moins d'une dizaine, va se révéler sur la scène sociale, sur la scène politique. Par cet écho télévisuel, ça va développer, amplifier l'action du groupe en question, et ça va surtout donner un sentiment de toute puissance conféré au groupe. Et puis, passer à la télévision, et aussi question sur laquelle je vais revenir avec les attentats du 11 septembre, c'est s'assurer une emprise sur les esprits, une emprise sur le public en rendant la menace toujours permanente, toujours là, toujours susceptible de se concrétiser. Alors, les terroristes, on est assez surpris, ils tiennent en haleine, ils ont une grande habileté en quelque sorte à tenir en haleine l'opinion publique, par exemple les Palestiniens avec les détournements d'avions vont commencer à partir de juillet 1968 et puis qui vont être de plus en plus nombreux au cours des années 70, ou encore autre manipulation de l'opinion. Les plus âgés, donc les professeurs ici s'en souviendront, c'était les islamistes libanais du Hezbollah, puis du djihad, qui vont aller plus loin encore en enlevant des journalistes de télévision français et américains au moment de la guerre du Liban, de sorte à ce que, entre mars 85 et mai 89, tous les journaux télévisés, on verra l'image de ces journalistes emprisonnés, séquestrés par le groupe du Hezbollah ou du djihad. Donc tous les jours, on va entendre parler du Hezbollah ou du djihad. Donc, il y a un écho là. Comme le disait Raymond Aron, une action terroriste, une action violente, est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques. Alors, c'est une violence extrêmement spectaculaire. Alors, classiquement, on distingue quatre types de terrorisme, sur lequel je vais revenir dans la partie plus historique. Alors, le terrorisme que l'on appelle communautaire ou indépendantiste. Alors, ce terrorisme communautaire, c'est mieux, ou indépendantiste, il est exercé au nom d'un groupe contre un autre qui est perçu comme étranger, par exemple dans le cas des luttes anticoloniales. Donc c'est une violence de type indépendantiste, c'est celle de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, contre Israël, c'est celle de l'ETA, des militants basques contre l'autorité espagnole. Ça a été très longtemps la violence déployée par l'armée républicaine irlandaise contre les Britanniques. Donc ça, c'est le terrorisme communautaire de type indépendantiste, sans doute le conflit, en dehors évidemment du conflit israélo-palestinien le plus aigu de ce type aujourd'hui, c'est le conflit que connaît l'île de Ceylan, du Sri Lanka, avec les Tamouls. Deuxième catégorie, c'est le terrorisme d'inspiration révolutionnaire. Ce terrorisme d'inspiration révolutionnaire peut aussi bien être d'extrême gauche que d'extrême droite. Le terrorisme révolutionnaire a été surtout d'extrême gauche dans les années 1960-1970, avec des groupes, ceux sur lesquels j'ai travaillé dans le cadre de mes recherches, comme les Brigades Rouges en Italie, comme la Fraction Armée Rouge ou encore la Bande à Bader. Il y a un film très mauvais, paraît-il, mais ça ne faut pas le dire, qui passe actuellement sur les écrans. Mais c'est aussi, hein, ça peut être aussi hein, un terrorisme d'extrême droite qui sont connus et connaissent encore hein, une croissance aux États-Unis hein, avec des attentats racistes. Depuis les années 1990, hein, des attentats racistes commis par ce qu'on appelle les hate groups, les groupes de la haine, hein, ou encore les suprémacistes blancs, hein, qui ont commis, par exemple, le premier attentat de Oklahoma City en avril 1995, qui avait fait 168 victimes. Troisième catégorie, lui, ce terrorisme révolutionnaire hein, est en très net déclin, hein, voire quasiment disparu. Je vais expliquer pourquoi tout de suite. Troisième catégorie, qui elle est la catégorie, si je puis dire, montante, hein, la plus développée aujourd'hui, hein, c'est le terrorisme religieux, qui est celui qui est devenu le plus meurtrier depuis les années 1980. En effet, hein, ce terrorisme religieux... Hein, a été responsable entre 1982 et 1989, ils ont été responsables de 8% de l'ensemble des attentats terroristes au travers du monde, mais de 30% des victimes. Alors comment cela s'explique-t-il hein, que le nombre d'attentats commis par des groupes religieux en soit donc de l'ordre de 8% du total des attentats, mais ait fait 30% des victimes, ça s'explique par le fait hein, que ce sont ces groupes qui utilisent les moyens les plus virulents hein, d'action. Hein. Alors, évidemment, on pense au 11 septembre 2001, hein, mais à peu près toutes les religions hein, sécrètent ce genre de groupes. Hein. Par exemple, hein, au Japon, vous avez eu la secte Aum, une secte bouddhiste, Aum, A-U-M, qui a organisé dans le métro de Tokyo en mars 1995 un attentat hein, qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes qu'il ne l'a fait, hein, mais il en a fait quand même déjà une dizaine de victimes. Ou encore hein, des groupes d'extrême droite, enfin qui sont aussi d'extrême droite et évangélistes aux États-Unis, hein, eh bien ils avaient projeté un attentat au cyanure hein, de toute l'eau hein, aux États-Unis, hein, qui là aussi, hein, si le FBI n'avait pas démantelé le réseau, aurait fait un grand nombre de victimes. Dernière catégorie, un peu en marge, hein, c'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État ou l'État terroriste. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, le terrorisme d'État en renvoie en fait à deux cas, à deux situations. Première situation, hein, un État qui utilise une politique de terreur, une répression disproportionnée hein, contre une partie de sa population, une partie de sa population qu'il désigne comme ennemi intérieur, parce que il n'a pas cette fraction de la population ne partage pas la même religion, par exemple, hein, en raison de ses origines ethniques, hein, etc. Autre définition hein, du terrorisme d'État, hein, c'est un État qui utilise des groupes terroristes à des fins de politique extérieure, hein, c'est-à-dire un État qui parraine en quelque sorte, qui arme et qui finance un État terroriste hein, pour conduire des opérations contre un autre État, mais sous couvert, hein, c'est pas l'État lui-même qui le fait, hein, il le fait par l'intermédiaire en manipulant hein, un groupe terroriste, hein, ça a été le cas hein, par exemple de la Libye, hein, responsable, on le sait très bien, de l'attentat de Lockerbie qui a frappé la Grande-Bretagne, ça a été le cas de l'Iran dans les années 80 en France hein, pour infléchir la politique extérieure de la France hein, et qui a donc utilisé des groupes d'extrême droite, ceux qui ont fait terroristes, ceux qui ont fait les attentats dans le métro à Tati, etc. Alors, d'où vient ce terrorisme hein, et ça sera donc mon troisième point, et je pense être dans les temps. Comme je vous le disais, hein, eh bien, le terrorisme en est au XIXe siècle. Alors on distingue, là aussi, assez classiquement, trois âges, trois périodes du terrorisme. La première période, c'est donc la période du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Hein, peut-être savez-vous que notre 20, enfin, mon 20e siècle, parce que vous, votre siècle, c'est le 21e. Le 20e siècle, c'est un siècle court hein, qui commence en 1914 hein, et qui se termine en 1989. Donc, le premier âge du terrorisme, donc, c'est le 19e siècle, hein, et comme vous l'avez vu en histoire, hein, eh bien, ce 19e siècle, il est secoué par une double onde de choc. C'est l'onde de choc venue de la Révolution française, hein, et qui va faire souffler l'aspiration aux libertés et aux droits civiques, hein, et puis c'est l'onde de choc provoquée par la révolution industrielle hein, qui va amener la question sociale, hein, la question de la justice sociale. Alors la première vague terroriste, hein, eh bien, elle est pour l'essentiel d'inspiration socialiste hein, et anarchiste, et va frapper hein, d'abord la Russie hein, avec un mouvement populiste, hein, Liberté du Peuple, qui vont assassiner le tsar Alexandre II en 1881. Et puis cette vague anarchiste hein, va également venir en France hein, avec les attentats anarchistes hein, dont le plus connu hein, c'est là encore l'assassinat du président Sadi Carnot en juin 84 hein. L'objectif c'est de désorganiser l'État, c'est d'inciter alors pour la Russie c'était inciter la paysannerie, pour la France c'était inciter le prolétariat naissant à rejoindre le combat révolutionnaire hein, et donc ça se passait par ce qu'on appelle la propagande par le fait hein, c'est-à-dire une série d'attentats anarchistes, le plus souvent des attentats ciblés, hein, des assassinats politiques, mais aussi des attentats indiscriminés hein, par exemple d'Émile Henry hein, qui avait posé une bombe à la gare Saint-Lazare. Mais comme je vous le disais, le 19e siècle, c'est aussi le siècle de la formation des États modernes, et il va se terminer sur une seconde vague de violence qui, cette fois-ci, n'est plus une violence d'inspiration révolutionnaire, hein, mais plutôt une violence de facture nationaliste, indépendantiste. Alors, ces attentats indépendantistes, hein, qui relèvent donc de la première catégorie que je vous ai exposée tout à l'heure, hein, a d'abord agité l'Europe centrale jusqu'aux années 1930, hein, avec les mouvements macédoniens, les Serbes et Croates, hein, qui avaient été déçus par le partage territorial opéré au Congrès de Berlin en 1878, hein, et qui vont s'engager dans le combat séparatiste par la voie privilégiée de l'attentat. On a par exemple hein, en 1934 hein, un groupe croate hein, qui va assassiner à Marseille le roi Alexandre de Yougoslavie et avec lui d'ailleurs le ministre français des Affaires étrangères. C'est un mouvement croate. Hein. Et c'est cet attentat hein, qui va donner lieu hein, à la première définition hein, du terrorisme par la Société des Nations et qui définissait ce terrorisme comme des faits criminels dirigés contre un État et dont la fin ou la nature est de provoquer la terreur à l'encontre de personnes déterminées. Alors le foyer indépendantiste hein, se déplace ensuite de l'Europe centrale à la scène proche-orientale avec la naissance de la question palestinienne. Mais la question palestinienne, elle commence d'abord par la question sioniste, hein, puisque les premiers groupes terroristes hein, eh bien, sont des groupes de sionistes, hein, la Gana de Ben Gurion, l'Irgun de Menahem Begin, hein, qui se sont soulevés contre le mandat britannique en Palestine et qui ont recouru à l'assassinat sur le sol palestinien ou ailleurs. Hein, l'opération la plus importante a été l'assassinat du secrétaire d'État Lord Moyne en 1944 et surtout l'attentat en 1946 contre l'hôtel King David qui servait de quartier général de l'armée britannique hein, et qui a fait plus de 200 victimes. Alors ça c'est le premier âge du terrorisme. Le deuxième âge du terrorisme, eh bien, il arrive à la fin des années 50. Et dans les années 50-60, hein, eh bien, on voit que ces deux sources de contestation, hein, sociale et nationaliste, hein, se réactivent et va provoquer donc une nouvelle vague, hein, d'attentats et de groupes violents. Alors c'est, je l'évoquais tout à l'heure, mais je ne vais pas m'appesantir dessus, hein, c'est la vague de groupes violents qui secoue à peu près l'ensemble des pays occidentaux, mais le Japon et les États-Unis aussi, hein, dans le cadre des mouvements de contestation des années 68. Hein. Et puis, sur le plan, sur l'empreinte nationaliste, hein, c'est évidemment le mouvement de décolonisation, hein, qui va s'accompagner d'une prolifération de groupes armés, hein, dans le cadre des luttes de libération nationale, hein, par des moyens violents, hein. Citer deux exemples, hein, les Felagas algériens, hein, qui ont recouru à partir de 1954 et surtout de 1956, année de création du FLN, hein, du Front de Libération Nationale, ils ont recouru à des attentats, à des sabotages destinés à semer la terreur chez les pieds noirs et soldats français. Mais évidemment, la lutte indépendantiste la plus emblématique de cette époque, hein, eh bien, c'est celle qui est menée par l'Organisation de Libération de la Palestine, hein, l'OLP, hein, qui fédérait une série de groupes, hein, donc sous la direction de Yasser Arafat, hein, à partir de 1968. L'OLP a été emblématique à plusieurs titres, hein, d'abord parce que cette organisation va conduire le conflit le plus long et toujours pas terminé, hein, de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, et puis le conflit sans doute le plus épineux pour la communauté internationale en raison des enjeux d'ordre géopolitique qui sont associés à cette question, hein, et puis elle marque un tournant, hein, cette OLP également, hein, car elle va très rapidement avoir une stratégie d'internationalisation du conflit, hein, c'est-à-dire d'exportation du conflit de sa scène d'origine, la scène donc de la Palestine, hein, à l'étranger, hein, en procédant à des attentats à l'étranger et, comme je vous le disais tout à l'heure, à des détournements d'avions. Et c'est d'ailleurs cette vague de détournement d'avions qui va provoquer la deuxième tentative de réaction internationale en 72 au terrorisme. Alors, le deuxième âge du terrorisme, eh bien, on le clôt d'un point de vue simplement symbolique, si je puis dire, hein, avec l'effondrement du bloc soviétique, hein, du monde bipolaire, hein, en 1989. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que la fin de l'ordre bipolaire, hein, va entraîner de grandes transformations, hein, sur la scène des conflits du monde entier. D'une part, les groupes qui étaient d'inspiration marxiste, hein, vont abandonner, hein, la référence marxiste qui légitimait leur recours à la violence. D'autre part, l'effondrement des blocs va faire que de nombreux groupes vont perdre leur soutien, car dans la logique de compétition entre l'Est et l'Ouest, eh bien, les deux blocs, hein, soutenaient logistiquement, armés, finançaient, hein, certains groupes de contestation violents, hein, de l'autre bloc, hein, pour le déstabiliser. Alors évidemment, avec l'effondrement de cette logique de guerre froide, hein, par utilisation de groupes terroristes quelquefois, hein, eh bien, ces groupes vont perdre leur logistique et leur soutien, et se reconvertir dans d'autres domaines qui sont en général les trafics. Peut-être que j'y reviendrai. Alors, avec l'épuisement des luttes révolutionnaires, hein, eh bien, apparaît une toute autre rhétorique, une toute autre mobilisation identitaire, hein, qui met l'accent, hein, sur des valeurs présentées comme traditionnelles et opposée à la modernité occidentale, et qui va trouver dans les groupes religieux, hein, leur mode d'expression privilégié. Alors, ça me conduit évidemment à à venir sur les attentats du 11 septembre, hein, parce que les attentats du 11 septembre, à la fois, ils radicalisent, si je puis dire, les logiques propres au terrorisme, notamment sa dimension dramaturgique, sa dimension spectaculaire, hein, mais d'un autre point de vue, hein, ils marquent aussi une transformation du registre violent, hein, si bien que certains d'ailleurs ont considéré qu'avec ces attentats du 11 septembre était venue une autre forme de terrorisme que certains appellent l'hyperterrorisme. Alors, ces attentats ont surpris par leur violence, hein, et surtout ils ont concrétisé un scénario, hein, très clair aujourd'hui, hein, mais on connaissait déjà depuis la fin du monde bipolaire, hein, c'est-à-dire que dorénavant, les conflits, ce ne sont plus des guerres interétatiques, ni même des guerres entre un État et un mouvement de guérilla identifié et qui aspire à s'ériger en État, hein, dans le cadre par exemple d'un mouvement indépendantiste. Hein. Non, maintenant, hein, les formes de la guerre, hein, opposent un État à un ennemi invisible, et un ennemi transnational qui ne vise plus à conquérir le pouvoir politique, qui ne vise plus à conquérir le pouvoir d'État, hein, mais plutôt à déstabiliser un ordre régional ou un ordre mondial. Alors, tout à l'heure, je disais avec Raymond Aron, hein, que le terrorisme, hein, a été marqué par une action dont les conséquences psychologiques sont bien supérieure aux conséquences physiques, hein, en termes de terrorisme était relativement économe en vie humaine. C'est évidemment pas du tout le cas avec, et là c'est un élément de transformation, avec ces attentats du 11 septembre, hein, puisqu'ils ont fait environ 3000 victimes, hein, et qu'ils inaugurent une virulence donc particulière des groupes religieux, hein. Alors, comment expliquer que ces groupes religieux, hein, soient particulièrement virulents, hein? Eh bien, ça s'explique par leur vision profondément manichéenne, hein, du monde, hein, une vision où s'affrontent sans limite et sans règles, sans compromis possible, hein, des élus de Dieu et des mécréants, des suppôts du mal, hein, dans une dimension souvent apocalyptique. Et puis, c'est une violence qui a une dimension rédemptrice, comme le révèle, hein, le développement, hein, de l'attentat aveugle, évidemment, mais commis par, de l'attentat suicide, pardon, donc des kamikazes. Alors, ce rapport, hein, à la violence, hein, eh bien, avec l'attentat suicide, hein, eh bien, permet aux croyants d'exprimer sa foi jusqu'à ultime et d'accéder, de son point de vue, hein, évidemment, au sacré. L'autre différence, hein, de ces attentats, hein, c'est que jusqu'à ces attentats, on considérait souvent que le terrorisme était l'arme des pauvres, que c'était un moyen de libération, d'affranchissement aux mains de ceux qui ne pouvaient pas usés d'instruments traditionnels et qui avaient peu de ressources. Étant donné le poids financier, la structure financière, hein, du réseau Al-Qaïda et des moyens qui ont été nécessaires pour réaliser ces opérations, hein, et ensuite tous les mouvements de capitaux, hein, qui les ont accompagnés, on ne peut plus dire cela. Et puis, autre grande différence, hein, c'est que ces violences aujourd'hui, hein, semblent ne plus avoir véritablement de but. C'est-à-dire que ce sont des violences qui sont décontextualisées, hein. À travers le terrorisme révolutionnaire ou le terrorisme communautaire, hein, il y a un moyen qu'on doit éprouver, hein, au service d'une fin, hein, qui est la révolution, qui est la conquête du pouvoir d'État, etc. Alors que là, avec ces attentats, on ne peut être que frappé, hein, par la distanciation, la déconnexion entre ces attentats et l'objectif qu'ils visaient. maintenant. Ce sont des attentats qui sont peu lisibles en termes d'objectifs d'action. Qu'est-ce que pouvait prétendre Al-Qaïda à travers ces actions? Que tous les Américains se convertissent, c'est évidemment absurde. Qu'ils changent de politique étrangère au Proche-Orient, la question palestinienne est surtout instrumentalisée par Al-Qaïda, mais ne semble pas être son objectif, etc. Alors, si j'ai encore 5 minutes, j'avais d'autres choses à dire sur le 11 septembre, mais bon, peut-être ça viendra peut-être dans la discussion. Alors, je vais passer à la conclusion. La diffusion des attentats aveugles à partir de 1945 et plus encore à partir de la fin des années 60 témoigne de tendances générales à l'œuvre dans la violence. Alors, quelles sont ces tendances générales que l'on repère au XXe siècle? D'une part, la population civile est devenue la première victime, pas simplement des terroristes, mais également dans le cadre des guerres dites conventionnelles, puisque la Deuxième Guerre mondiale aura eu triste privilège d'inaugurer cette particularité, que ce ne sont plus les combattants, mais d'abord la population civile qui est victime. Deuxième tendance, la privatisation de la violence. Normalement, vous savez, la violence est le monopole de l'État. On assiste à une privatisation de cette violence à la fois par le développement des groupes utilisant de la violence, mais aussi par, et là c'est plus récent, par le fait que de plus en plus des États utilisent des milices privées dans le cadre du maintien de l'ordre. Peut-être y reviendrons nous. Et cette privatisation de la violence, elle rend la capacité de destruction accessible à des petits groupes, voire à quelques individus singuliers, dans un siècle où les masses jouent un rôle historique central. Troisième tendance, c'est l'imbrication entre l'événement violent et sa représentation, par le jeu de la communication de la communication moderne, on a une forme de d'esthétisation de la violence, où là encore les attentats du 11 septembre ont radicalisé ce lien étroit entre l'événement et la façon dont est représenté cet événement. Et quatrième tendance, c'est le dépassement de l'opposition entre l'ordre national, l'ordre des États, des frontières nationales, et l'ordre externe, l'ordre international, avec une interconnexion croissante entre des conflits locaux et des conflits transnationaux ou internationaux. Et là encore, le terrorisme en réseau de type Al-Qaïda est exemplaire de ce point de vue-là, puisqu'il unit des individus d'origine nationale multiples, de provenance sociale très différente également, dans une même adulation fanatique. Voilà, je vous remercie de votre attention.